Vous êtes sur RTL.
Suivez RTL Matin en direct vidéo sur RTL.fr.
RTL Matin avec Yves Calvi, 7h19.
Dans la lutte contre le cancer, nous allons ce matin partager avec vous le message d'espoir d'un grand cancérologue.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour David Kayat.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Nos auditeurs vous connaissent. Vous avez fondu l'Institut National du Cancer. On se souvient aussi du plan cancer lancé sous la présidence de Jacques Chirac, en plus du service de pointe que vous avez dirigé pendant des années. Vous publiez cette semaine l'enquête Vérité aux éditions Albin Michel. Vous n'aurez plus jamais peur du cancer, affirmez-vous à la une de ce livre. Comment ne pas avoir peur, David Kayat, d'une maladie qui continue de progresser? 400 000 nouveaux cas en France en 2017. Le cancer du poumon chez la femme a augmenté de 200% en 15 ans. Ce chiffre, je l'ai trouvé dans votre livre. Voilà.
En fait, il faut porter un autre regard à cette maladie. Tant qu'on la considère comme une maladie, on passe à côté de ce qu'elle est réellement. Il faut la considérer, c'est ce que je fais dans le livre, comme un véritable personnage, comme une personne, et rentrer dans son intimité, comprendre son intelligence, trouver ses points forts, mais aussi ses points faibles. C'est que quand on prendra cette distance par rapport à la maladie, qu'on arrivera réellement à lutter contre elle. C'est ça le message dont je parle.
Je vous cite, ne vous y trompez pas, le cancer est un criminel, il est un meurtrier en puissance qui malheureusement, s'il n'est pas arrêté à temps, réussit son crime, celui d'une victime innocente.
C'est ça.
Mais vous êtes lucide et j'allais vous dire, quand on aborde les choses comme ça, c'est pas facile.
Non,
vous le saviez mieux que quiconque.
Mais bien sûr, ça fait 45 ans pratiquement que je traite des malades atteints de cancer. J'en ai vu malheureusement des milliers aujourd'hui mourir. Mais on est tous touchés par cette maladie autour de nous. Il n'y a pas une personne qui n'a pas un cancer autour de lui. Et forcément, c'est une maladie qui fait très très peur. Elle n'arrive pas à être considérée comme une maladie comme les autres. Regardez, un ami à vous meurt d'un infarctus du myocarde, ça va, on accepte. Ouais. Un ami à vous meurt d'un cancer, il y a un petit moment d'effroi comme ça, ça n'est pas exactement la même chose. Et ce que j'explique, cette enquête, c'est-à-dire, je me dis, voilà, finalement, il va y avoir un meurtre. Et on va faire une enquête comme un profiler. On va essayer de comprendre comment le cancer fait pour vouloir tuer. Pourquoi il veut tuer le malade? Comment il fait pour tuer le malade? Comment ils font? Quelles sont ses armes? Comment est la scène du crime? Et donc, on a repris un petit peu cette enquête, ce travail autour du cancer, de sa réalité, comme une enquête policière.
Alors, vous promettez au lecteur, en fait, sous la forme de cette enquête policière, de devenir son meilleur anti-cancer.
Bien sûr.
Ça commence par quoi, David?
Déjà, par ne plus avoir peur de la maladie. Par ne plus se cacher les yeux. Il faut regarder la vérité en face. Il faut regarder cette maladie en face. Et c'est que quand on arrivera. Vous imaginez qu'en France, on n'arrive même pas encore, malgré toutes les campagnes que j'ai pu faire à l'époque du plan cancer, à prononcer le mot cancer. Oui. Combien de fois dans vos émissions, les uns et les autres, on parle de quelqu'un qui est mort d'une longue et douloureuse maladie?
Parce qu'on respecte aussi la famille qui parfois n'a pas voulu le dire.
Oui, bien, écoutez, je suis bien placé pour le savoir, mais pour autant, tant qu'on n'osera même pas prononcer le nom de la maladie, comment voulez-vous qu'on ait le courage de l'affronter?
Vous consacrez des pages très intéressantes avec des petits croquis, très accessibles au déclenchement de la maladie, mais votre apport très personnel, je dis bien très personnel dans ce livre, est une conviction. Vous liez nos émotions à l'évolution de la maladie.
Voilà, c'est un peu, après 45 ans de lutte contre le cancer, j'ai eu pendant des années ce sentiment quand même que beaucoup d'histoires personnelles de tous ces malades qui me racontaient des chocs affectifs extrêmement importants, des maris qui quittaient la femme, des gens qui perdaient leur travail, qui vivaient ça très mal, et finalement l'apparition du cancer. Et donc, je me suis mis à faire des recherches extrêmement sérieuses, je suis un universitaire, c'est ma façon de travailler, et finalement, j'avoue dans ce livre quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant, c'est-à-dire je pense vraiment qu'il existe un lien très sérieux entre les émotions que nous vivons, le stress et le risque de développer un cancer, ou quand on a un cancer, le risque d'en mourir.
Un élément déclencheur ou aggravant, David Kayat?
Alors les deux. C'est-à-dire dans le cancer, il y a à la fois la première cellule au milieu. Un corps humain, c'est 1 milliard de cellules qui sont des cellules du cœur qui battent pour faire circuler le sang, les cellules du cerveau qui pensent, les cellules des yeux qui voient, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, au milieu de ce 1 milliard de cellules, il y en a une qui devient cancéreuse. Ça s'appelle l'initiation. Qu'est-ce qui conduit cette cellule à devenir cancéreuse pour se préparer à être ce meurtrier, cet assassin terrible? C'est ça que j'essaye d'expliquer. Comment le stress, les émotions vont contribuer à transformer cette cellule en une cellule maligne, et ensuite, comment le stress et les émotions négatives, bien évidemment la tristesse, le désespoir, hopeless en anglais, comment ça va finir par soutenir le développement de cette cellule qui va se mettre à se multiplier de 4, 8, 16, 32 jusqu'à arriver à un cancer.
Vous citez notamment le cas très perturbant de votre patiente décédée, Florence, que vous avez sauvée, qui a été en rémission et qui, après une séparation avec son mari, en quelques mois, meurt d'un cancer. Et
oui, parce que
je ne peux pas m'empêcher de penser que cette séparation et sa souffrance a été liée finalement à son décès.
Finalement, on porte en soi ces cancers. C'est un homme sur deux, une femme sur trois. On a pratiquement tous certainement des cellules cancéreuses dans notre corps. Qu'est-ce qui fait que chez certains d'entre nous, à un moment donné de cette vie qui est la nôtre, cette cellule va réellement nous emporter? Il y a une forme de presque de suicide au moment où la douleur devient trop grande, au moment où ça devient trop dur de continuer, de ne plus avoir d'espoir, d'avoir un stress qui dépasse notre capacité de gestion. Et à ce moment-là, effectivement, le cancer vient comme une solution à tout ça, puisqu'il entraîne la mort et l'apaisement. Mais il existe, heureusement, des façons de lutter contre tout ça.
Mais David Cayette, ça paraît compliqué de soigner son stress, sa tristesse, quand on est atteint du cancer.
Avant d'être atteint du cancer. Par exemple, une très belle étude en Norvège, sur 100 000 décès, qui montre que les hommes et les femmes célibataires, ou les hommes divorcés, par exemple, c'est-à-dire qu'ils n'ont personne avec qui parler, meurent 15 fois plus du cancer que les autres. On voit aussi, il y a des tas d'études qui montrent que les femmes dont le mari s'en va meurent beaucoup plus du cancer, ou les survivants de l'Holocauste, par exemple, aussi. C'est-à-dire que ce sont des études extrêmement sérieuses qui montrent qu'à l'origine du cancer, il y a souvent cette histoire d'un stress qui est allé trop loin.
Alors, il y a cette notion, finalement, de lien entre nos émotions et le cancer, et puis vous ajoutez que nos cellules malades, et bien finalement, c'est nous. Quand je souffre, ce sont aussi mes cellules qui souffrent.
Bien sûr. On a voulu comme ça, depuis qu'on a découvert la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, c'est-à-dire qu'on a compris comment fonctionnait notre ADN, comment fonctionnaient nos gènes, nos cellules, on a voulu oublier que nous sommes nos cellules. Nos cellules sont nous, et nous sommes nos cellules. Quand je pense, c'est que mes neurones pensent. Quand je bouge ma main, c'est que les cellules des muscles de ma main, du nerf qui va de mon cerveau jusqu'à ma main, etc. Toutes ces cellules sont mises à bouger, à faire quelque chose. Eh bien, on voudrait que la spiritualité ne soit pas réduite à une fonction biologique. Elle est réduite à une fonction biologique. L'âme, la conscience, le libre arbitre, tout ça, c'est mes cellules. Quand je pense, quand j'émets une idée extraordinaire, comme Einstein ou comme je ne sais pas quel grand penseur, c'est mes cellules, c'est mes neurones qui ont pensé ça. Et quand je suis triste, parce que mes cellules sont tristes.
Nous sommes nos meilleurs anticancers, ce sera ma dernière question. Et cette investigation conduite semble bien... vient de le démontrer, dites-vous, à la fin de votre livre. Nous sommes vraiment nos meilleurs anticancers.
Oui, il faut arrêter de dire c'est la faute des autres. En grande partie, bien sûr qu'on n'est pas responsables tous des cancers qu'on développe, heureusement. Et
merci de le préciser.
Non, mais attendez, ça fait 45 ans que j'accompagne des malades. Voilà. Je sais combien c'est dur et il n'est pas question pour moi de leur dire... D'ailleurs, je ne supporte pas les cancérologues qui disent à un malade qui a un cancer du poumon, ben écoutez, vous avez fumé, tant pis pour vous. C'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut essayer de contrôler son stress, on peut essayer d'améliorer sa nutrition, on peut essayer d'arrêter de fumer, on peut essayer de faire un certain nombre de choses pour éviter d'avoir cette maladie. Et tout vaut pour essayer de l'éviter.
Un livre, finalement, pour donner de l'espoir. L'enquête vérité, vous n'aurez plus jamais peur du cancer, paraît chez Albin Michel cette semaine. Merci David Cayette d'être venu nous en parler ce matin sur RTL. Bonne journée à vous.
Merci.